7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment les ménages font-ils face à la hausse des prix alimentaires sur le continent africain ? Alors que certains pays sont en plein mois de Ramadan, ce qui augmente les dépenses, et que les familles peuvent dépenser jusqu'à 2/3 de leurs revenus pour de la nourriture en temps normal. Alors en 2021, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 28% en moyenne, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, leur plus haut niveau depuis 10 ans. Jusqu'à quel point l'Afrique subsaharienne est touchée par cette hausse des prix ? Blé, maïs, sucre, huile, mais aussi carburant, engrais agricoles. Quelles sont les raisons réelles aussi de cette envolée des prix ? Reprise économique post-pandémie, guerre en Ukraine, conflit, mauvaise récolte. Les voisines et les voisins, parlez-nous de votre budget familial, le panier de la ménagère qui est qualifié désormais de sachet de la ménagère pour certains. Les autorités de votre pays prennent-elles des mesures pour limiter cette inflation ? Est-ce que vous discutez aussi de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance ? C'est aussi l'occasion de poser toutes vos questions à nos invités. Vous pouvez nous appeler, surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission, au 33 7 64 45 51 41. Pierre Janin, bonjour.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous êtes spécialiste des crises alimentaires à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Également avec nous Franck Galtier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des marchés alimentaires au CIRAD, c'est le centre de recherche en agronomie. Vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Hérault, que nous remercions au passage. En deuxième partie d'émission, nous serons en ligne avec Olossib, conseiller du programme alimentaire mondial, le PAM, pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et puis, pendant que vous nous appelez, les voisins, les voisines, nous filons au marché central Saint-Maur-des-Fossés de Ziguinchor, en Casamance, au Sénégal, pour constater la vie chère. Alors que fin février, le président Macky Sall avait décidé de baisser les prix des denrées de première nécessité, comme l'huile, le riz et le sucre. C'est un reportage de Raphaël Constant.
1750. 500. Oui, 500, oui. 600. Ça, c'est 700. Ça a coûté 500, maintenant c'est 700.
C'est
combien ? 5200. 5200.
Madame, qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter ?
J'ai acheté de la tomate.
La tomate en boîte, en conserve.
En conserve, oui.
À vos pieds, je vois trois gros sacs. En plastique.
Il y a deux sacs de riz et un sac de sucre. Le sac de riz, c'est le Ramadan. Le deuxième sac, on donne ça à ma belle-famille. Et aussi du sucre, et on consomme bien, beaucoup pendant le Ramadan. Auparavant, j'amenais 75 000 pour mon ravitaillement. Mais maintenant, il me faut 100 000 francs pour le faire.
75 000 francs, ça fait à peu près 114 euros. Et 110 000 francs, ça fait à peu près 167 euros. Et quel produit a particulièrement augmenté là dans ce que vous avez acheté ?
L'huile en particulier. Le sac de riz, ça a coûté 19 000 et maintenant ça coûte 21 500.
19 500 francs, ça fait à peu près 29 euros. 21 500 francs, ça fait à peu près 33 euros.
Tous les produits ont augmenté. Tous les produits. Ici à Ziguinchor, c'est toujours plus cher qu'à Dakar parce qu'on dit qu'il y a le transport.
Donc en fait, c'est les importations qui ont augmenté. Du coup, ça se répercute sur vos courses.
Je crois bien.
Du coup, vous êtes obligé d'acheter moins ou comment vous faites ?
Je ne peux pas acheter moins parce que c'est juste pour le mois et j'ai une famille moyenne.
C'est pour nourrir combien de personnes ?
10, 11 personnes dans la famille.
Ok, merci beaucoup, madame.
Allez, ok, merci, je vous en prie.
Rentrez bien.
Ok.
Moi, je m'appelle Khadija Tou.
Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train d'acheter, Khadi ?
Alors là, je suis venue acheter un sac de riz, deux bidons de 5 litres d'huile. Je vais acheter de la tomate, du sucre et je vais voir si je pourrais acheter des oignons et de la pomme de terre.
Pourquoi ?
Parce qu'actuellement, il y a une hausse de certaines denrées. Voilà. Pour l'huile, là, il me dit 7 500. Mais il y a peut-être un an, on l'achetait à 5 500.
Donc le bidon de 5 litres d'huile est passé de environ 8,30 euros à presque 11 euros.
Voilà, c'est ça. Actuellement, on achète ça à 7500 francs.
Et qu'est-ce qui est difficile à acheter pour vous comme autre produit ?
Alors, mais tout est difficile. Vous savez, la famille africaine, pour le riz, c'est indispensable presque. L'huile aussi. Et la tomate aussi, c'est cher. La tomate, la boîte de 1 kilo, voilà. De 1000 francs, il est passé à 1500 francs.
Donc ça a augmenté de 500 francs à peu près, voilà, 80 centimes.
Voilà, c'est ça. C'est excessivement cher. Du coup, si on devrait acheter 10 litres, on est obligé d'en acheter 8 ou 7.
Et du coup, est-ce qu'il y a des produits que vous n'achetez plus ou alors vous êtes obligé quand même de dépenser plus ?
Vous voyez, même les bouillons ont augmenté. En prix unitaire, on achetait le cube à 25 francs. Maintenant, pour les 3, c'est 100 francs. Avant, c'était les 4. Alors pour moi, je me suis dit que avant d'acheter les bouillons, qui, excusez-moi, ça ne me sert à rien. Mieux vaut que...
Pourtant, on cuisine beaucoup avec le bouillon.
C'est pas bon. Moi, je préfère ne pas acheter les bouillons et acheter encore de l'huile ou du sucre ou quelque chose d'autre, comme les chocolats, le beurre ou autre chose.
Et donc là, on parle de la plupart des produits qui sont importés. Et les produits frais, est-ce qu'ils ont augmenté ?
Ah oui, tout a augmenté dans le marché. Parce que le kilo de carottes, on peut l'avoir à 500, 600 francs. Et les choux pommés, vers 700 francs comme ça. En comparaison des autres moments, c'est un peu cher. C'est un peu cher. On fait avec. Parfois, on se prive de certains aliments. Tout le reste, c'est des sauces sans tomates. Peut-être l'huile aussi. J'achète tout, mais en petite quantité. C'est le riz qui ne change pas. La quantité de riz qu'on utilise, ça ne change pas. Bien que parfois, on fait des plats à base de pain. Comme par exemple, le soir, on fait de la sauce et on n'utilise pas le riz.
Et est-ce que vous consommez de la farine, du blé ?
Oui, la farine. On consomme un peu de farine. Ça a augmenté de 25 francs le kilo. Moi, j'en utilisais. Mais en ce moment, je faisais des beignets que je vendais. Mais pour l'instant, je ne le fais plus. Ah, le pain, il a augmenté. Oui, c'était à 150 et après à 175. Il y a à peu près, je crois, 3 mois, c'est à 200 francs. Et le pain est tellement léger qu'une seule personne peut manger une miche. C'est vraiment cher.
Donc 200 francs, ça fait à peu près 30 centimes d'euros. Voilà. Et vous dites qu'en fait, la taille du pain a réduit que le prix a augmenté, c'est ça ?
C'est vraiment léger, ça ne fait pas le poids. Et c'est à 200 francs qu'on achète la miche. C'est cher.
Et alors, ces augmentations de prix, vous les avez constatées depuis combien de temps à peu près ?
Plus de 2 mois quand même.
Et vous savez pourquoi ?
Ah ben, une part de la conjoncture, de la guerre en Ukraine, on ne sait pas exactement. Voilà. Les prix du marché international sont chers. Et nous ici, je crois qu'on est en train de récolter les pots cassés. Voilà.
Reportage sur le marché à Ziguinchor de Raphaël Constant. Je vous lis aussi des messages qui viennent d'un petit peu partout. Grâce, qui est à Pointe-Noire au Congo. On ne mange plus de poisson 2 fois par semaine, mais une seule fois par mois. On cuisine les plats avec moins d'huile d'arachide. Le prix est passé de 13 000 CFA, les 25 litres, à 40 000. Gislain à Cotonou au Bénin nous dit que le salaire n'a pas augmenté, mais les dépenses au quotidien ont augmenté. Le pain sucré, le savon. Je suis obligée de moins économiser pour donner l'essentiel à ma petite famille. Élie à Kinshasa, avec la hausse des prix, nous diminuons la quantité de nourriture dans nos assiettes et nos stocks dans nos maisons également. Franck Galtier, l'Afrique de l'Ouest est bien affectée, pas de doute, et l'Afrique centrale aussi, par la hausse des prix, quand on entend ces témoignages et le reportage.
Oui, oui, tout à fait. Et en fait, c'est un problème qui est né sur les marchés internationaux. Donc le prix des huiles végétales et des céréales aussi augmente depuis maintenant presque 2 ans, depuis le milieu de l'année 2020. C'est des augmentations très fortes, hein. C'est à peu près un doublement pour les céréales, blé, maïs, pour les huiles végétales. Alors, à quoi c'est dû ? Ça, c'est dû à la fois à la crise du Covid, à la reprise économique qui a suivi la crise du Covid.
C'est-à-dire que tout le monde a voulu consommer plus en même temps, c'est ça ?
C'est beaucoup passé par le prix des énergies, en fait, avec la reprise économique qui a suivi la crise du Covid. Le prix des énergies fossiles, pétrole, gaz naturel a assez fortement augmenté.
Parce qu'on a redémarré des usines, notamment.
Exactement. Et du coup, ça a entraîné aussi une augmentation du prix des produits alimentaires, parce qu'il y a des liens assez forts en fait entre les prix de l'énergie, des énergies fossiles, et le prix des produits alimentaires. Et ces liens, ils passent. Bon, il y a plusieurs canaux, mais les deux principaux, c'est par les intrants. Donc les intrants chimiques, notamment les engrais de synthèse qu'on utilise pour l'agriculture, sont fabriqués à base de gaz naturel. Donc l'augmentation du prix des énergies fossiles, au bout d'un moment, se transmet aussi dans le prix des produits alimentaires. Et puis la deuxième cause, c'est les agrocarburants, c'est-à-dire que on utilise des huiles végétales. En Europe, c'est beaucoup du colza pour fabriquer du carburant, et aussi des céréales, du blé, du maïs. C'est un peu en Europe, mais beaucoup aux États-Unis. Et du coup, tout ça fait que quand le prix des énergies fossiles, pétrole, gaz naturel augmente, bah, ça tire aussi vers le haut le prix des produits alimentaires.
Ouais.
Alors, la guerre en Ukraine a contribué à accentuer cette augmentation des prix, puisqu'il se trouve que l'Ukraine et la Russie sont deux exportateurs importants de céréales et d'huile végétale, et que ces exportations passent par les ports de la mer Noire. Et la mer Noire, maintenant, c'est une zone de conflit. Et du coup, ces exportations sont compromises, quoi.
On a des pays comme le Bénin, la Somalie, qui dépendent à 100% du blé russe et ukrainien. Et la Russie et l'Ukraine qui alimentent respectivement 32% et 12% des besoins en blé du continent. Il y a aussi, Pierre Janin, les sanctions imposées par la CEDEAO au Mali, où certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ne peuvent plus importer de produits maliens comme le riz, des engrais, du
Tout
bétail. Et puis on l'entendait aussi dans le reportage, le prix du transport, hein, du fait de l'augmentation du prix du carburant, fait que si on n'est pas pile devant le port, hein, ça crée une inflation.
Mais voyez, même cette question du transport n'a pas été évoquée par vos auditeurs. Mais parfois, il faut faire le choix entre mettre du carburant dans sa petite moto, dans sa voiture, ou au contraire, garder l'argent nécessaire pour acheter sur le marché. Donc ça, c'est un élément qui va venir, qui complique également. Et parce qu'il faut garder de l'argent pour le carburant pour pouvoir aller travailler. Parce que finalement, du fait d'un travail souvent informel, on reçoit son salaire à la journée, à la semaine, avec retard. Donc cette incertitude des revenus est un élément qui va venir compliquer les stratégies d'approvisionnement des ménages.
Et bien justement, vous nous appelez, les voisins et les voisines, pour nous dire comment vous reportez vos dépenses, comment vous vous organisez. 33 7 64 45 51 41. Nous sommes en ligne avec Pierre qui est à Parakou au Bénin. Bonjour Pierre.
Bonjour Emmanuel.
Bon, chez vous aussi, tous les prix augmentent, hein, je pense que c'est clair.
Oui, tout a augmenté chez nous ici aussi.
Mais vous avez une question un peu précise, Pierre.
Oui, c'est par rapport à nos productions locaux ici. Par exemple, le maïs que nous produisons chez nous ici. Je ne comprends pas pourquoi c'est cher. Nous ne l'exportons pas.
Oui. Il est produit pour le marché local au Bénin. Et pourtant,
oui.
le prix a augmenté.
Le prix a augmenté. Le gouvernement m'interdit de faire l'exportation. Mais malgré ça, c'est toujours cher.
Et alors, qu'est-ce que vous soupçonnez finalement? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, nous ne savons pas si c'est les intrants qui sont chers ou bien c'est la mauvaise volonté des paysans. J'aimerais savoir.
Quand vous dites mauvaise volonté, en gros, c'est parce que plusieurs se posent cette question. Est-ce qu'il y a des profiteurs de crise alimentaire finalement qui pourraient profiter de la hausse des prix pour augmenter artificiellement des prix pour eux? C'est un peu le sens de votre question, de ce que je comprends.
C'est ce que j'aimerais comprendre.
Merci de nous avoir appelé, Pierre. Pierre Janin, est-ce que vous voulez répondre à cette question?
Oui, la question des prix de détail, c'est souvent quelque chose qui est négocié politiquement. Un État, un gouvernement peut décider de fixer un certain nombre de prix ou de compenser certaines hausses de prix. Après, dans la réalisation, dans la transaction qui va être faite sur le marché, le commerçant n'est pas forcément dans la nécessité ou dans la possibilité de respecter le contrat qui avait été négocié de manière informelle. Ça peut être un premier élément intéressant dans la manière dont on gère finalement cette hausse des prix, on la répercute ou pas sur les prix de détail et auprès des consommateurs.
Mais
ça,
là,
on l'observe
vous
dans cette situation
plutôt,
de crise.
Vous parlez plutôt des commerçants et pas tellement des agriculteurs qui, Pierre, se demandent s'ils seraient de mauvaise volonté.
Les agriculteurs, ils ont toujours été les laissés pour compte en matière de rémunération. Donc on est vraiment encore une fois, dans cette situation de crise, à la croisée des chemins entre les priorités. Est-ce qu'il s'agit de soutenir une agriculture locale qui a un certain nombre de coûts de production qui vont sans doute se renforcer du fait de la hausse des intrants? Et est-ce qu'on veut par là même rémunérer correctement le travail familial des agriculteurs? Ou est-ce qu'on va continuer encore, compte tenu que les villes sont une case de résonance politique du fait de risques de mobilisation et d'émeutes, est-ce qu'on va continuer à favoriser les bas prix aux consommateurs et donc des catégories urbaines qui sont très présentes auprès des gouvernants elles-mêmes? C'est vraiment cette situation qu'on retrouve. C'était déjà le cas durant la crise 2007-2008. Rien de nouveau sous le soleil.
Alors d'ailleurs, vous l'entendez, oui, je vous en prie, Franck Galtier.
Oui, non, peut-être je peux apporter quelques éléments de réponse assez précis à la question de votre auditeur de Paracou. En fait, le prix du maïs augmente pour deux raisons. D'une part, parce que le prix international du maïs a augmenté. Et en fait, il y a quelques années encore, le prix du maïs en Afrique de l'Ouest était relativement déconnecté des prix internationaux. Mais entre-temps, on importe de plus en plus de maïs. C'est notamment pour des élevages industriels, de volailles. Et du coup, ça commence à induire une connexion entre le prix international du maïs et le prix du maïs en Afrique de l'Ouest, et par effet rebond aussi le prix du mil, puisque le prix du maïs et le prix du mil sont des prix qui sont relativement liés. Donc ça, c'est une première chaîne qui explique pourquoi le prix du maïs a augmenté en Afrique de l'Ouest. Et une deuxième explication passe par les intrants. Donc dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, c'est notamment le cas au Bénin, au Mali, dans tous les pays qui sont des pays de production de coton, le moyen pour les producteurs d'avoir accès aux intrants, c'est par le biais des filières coton, qui sont des filières très organisées. Mais ces intrants, du coup, ces engrais sont aussi utilisés pour la production du maïs. Or, avec les pénuries et les augmentations de prix sur les intrants, donc c'est le lien que je mentionnais tout à l'heure entre le gaz naturel et puis tous ces engrais de synthèse, du coup, il y a des pénuries d'engrais en Afrique de l'Ouest, notamment dans les zones cotonnières. Et ça a eu des effets sur la production de coton, donc déjà sur la dernière récolte. Et on peut aussi supposer que ça va avoir des effets sur la récolte suivante. Alors ça, c'est quelque chose d'assez préoccupant, parce que ça veut dire que on a affaire à une crise qui, d'une certaine manière, est de moindre ampleur par rapport à d'autres crises passées. Je pense à la crise, par exemple, de 2005 ou de 2012, qui, dans tous les pays du Sahel, avait généré des augmentations de prix beaucoup plus fortes que celles qu'on constate actuellement. Mais par contre, le problème avec la crise actuelle, c'est qu'elle risque de durer longtemps, parce qu'elle affecte aussi la production locale. Donc les crises de 2005 et de 2012, elles duraient 4 mois, 6 mois. Là, on est sur une crise qui pourrait durer un an et demi. Donc c'est ça la dimension, finalement, la plus préoccupante du problème.
Pierre Janin.
Franck, un petit point que tu aurais pu évoquer aussi, c'est cette question de report de consommation, de substitution d'un produit à l'autre. La hausse très importante du prix du blé fait qu'on se reporte peut-être très souvent sur d'autres céréales locales.
Justement, voilà. Sur quoi se reporter, sachant que, vous l'avez entendu, nos auditeurs, ils sont quand même, je ne parle pas du reportage sur le marché de Ziguinchor, mais Ziguinchor est une ville importante aussi, mais nos auditeurs sont très urbanisés. Donc, vous l'entendez, est-ce qu'il y a une spécificité de la consommation dans les villes et de vivre la hausse des prix de manière un peu différente par rapport aux zones rurales? Parce que nous, on a eu beaucoup de messages de gens qui nous disaient « Ah, mais le prix des pâtes, ça a augmenté ». Est-ce qu'ils ont envie de se remettre à consommer du sorgho et du mil, Pierre Janin?
Mais c'est toute la difficulté. Lorsqu'on a goûté à certains aliments transnationaux, ou à certains patrimoines mondiaux, que ce soit les pâtes, la pizza, des sandwichs, etc., à base de pain, c'est clair que les jeunes générations ont cette appétence pour ce type de produit. Et donc la difficulté, c'est en effet de retourner vers des produits qui sont estampillés plutôt marchés ruraux ou sociétés rurales, qu'on n'a pas forcément envie de consommer. Donc c'est aussi un élément de sociabilité, un élément finalement de représentation sociale autour des aliments en milieu urbain.
Alors, on vous donne Franck Galtier.
Si je peux apporter un petit complément. En fait, les villes d'Afrique de l'Ouest consomment aussi beaucoup de riz, qui est en partie produit localement et en partie importé. Et ça joue un rôle d'amortisseur très important dans cette crise, parce que le prix du riz sur les marchés internationaux n'a pas augmenté, contrairement au prix du blé et du maïs qui a très fortement augmenté. Ce qui explique aussi que du coup, l'Afrique de l'Ouest est moins touchée par cette crise que les pays d'Afrique du Nord, par exemple, qui dépendent beaucoup des importations de blé. Voilà, alors le prix du riz quand même, comme le disait tout à l'heure la dame sur le marché de Ziguinchor, a quand même un peu augmenté.
Et oui, il a augmenté. Et... alors, sachant, est-ce que c'est du riz casamancé ? Sachant que souvent, le paradoxe, c'est qu'on a souvent des auditeurs qui nous disent que le riz local chez eux est plus cher que le riz importé d'Asie.
Oui, alors ça peut arriver. Mais le prix du riz local est quand même lié au prix du riz importé. Alors, selon les pays et selon les régions, il est un peu au-dessus, un peu au-dessous, parce que sa qualité est préférée au riz importé, ou au contraire, les gens préfèrent la qualité du riz importé. Bon, ça, c'est vraiment très variable selon les pays et les régions. Par exemple, au Mali, les gens préfèrent le riz local. Dans d'autres régions ou d'autres pays, les gens vont préférer le riz importé. Mais en tout cas, le prix du riz local est quand même très lié au prix du riz importé. Et le prix international du riz est resté stable. Mais par contre, le fret, donc le coût du transport de ce riz qui vient essentiellement d'Asie, lui a légèrement augmenté. Et du coup, ça s'est traduit par une légère augmentation du prix du riz.
On en revient toujours au prix du carburant. Comment vous faites, les voisins et les voisines, face à la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, d'ailleurs, chez vous, alors que les traditions du ramadan dans certains pays du continent font augmenter aussi les dépenses? Vous nous appelez sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole juste après Samba Pesi. Check, need word on my fight, my court said rum ni touch, need word defend, my court said rum ni touch, etama wahalak nyom, tama wahalak nyom, tama wahalak nyom, epam ja wahalak nyom, hey, pam ja wahalak nyom, hey, tama wahalak nyom. A part generation kumba, music bi ma ko meuna gawlo, hay pass youtube you gumba, sen tay xam ngeen ni sama dawlo, ñom dañu jaxandi saw, jop africa sogo songo kaw, mali ani so xomo, yo ngani mo so xomo reni, tel fo le tel ci gene, jël sama tan yu ndaw du gaw, yor bayra yusuf ma ci gene, mu concurrence ken ci yene, abugu papa from alpine, mega si sama fa chobele, cholu cholu yay amul wax. Dam ka yenu tak kap ni word my fight my coach said ram ni touch ni word defend my coach said ram ni touch etama waxalak ñom tama waxalak ñom tama waxalak ñom epam ja waxalak ñom hey pam ja waxalak ñom hey tama waxalak ñom ño bokk gembe way duñu ben sa bop fessul tax sa posi ban cholu cholu da ngay wax te do def from jack face my coach yegal bar toj niveau fek mo mille may ngolo from abidjan la ak lafayette in check samba kesse like send money dem tedi nelaw senegal boy wax ko ci kaw amna ay boy town yu ci sul ñom dañuy dul ken du ci sul bu de ñongi chicago jama gën o block mala doomu rew mi dem fi tek sama tank niveau bi ma tollu mënatuma tontu ne ci sama yoon balen ñuy onko nit war my fight my coach said ram ni touch ni word defend my coach said ram ni touch etama waxal ak ñom tama waxal ak ñom tama waxal ak ñom epam jay waxal ak ñom hey pam ja waxalak ñom hey tama waxalak ñom allo tama waxalak ñom Merci pour ce super programme musical, Romain Dubrac. C'est une très belle chanson. Tama Samba Pedzi, chez 7 milliards de voisins, en étant en direct sur RFI. On parle de la flambée des prix des denrées alimentaires et pas que, le carburant aussi, sur le continent africain. Vous avez entendu au début de l'émission le reportage de Raphaël Constant sur le marché de Ziguinchor au Sénégal. Et vous pouvez d'ailleurs aller voir toutes les photos, aller vous connecter sur notre compte Instagram 7 milliards RFI. Et bien sûr, vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41. Nos invités sont toujours là. Pierre Janin de l'IRD, Franck Galtier du CIRAD. Et puis, on aura aussi le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, dans quelques minutes au téléphone, au LOCIB. Mitozzi nous appelle de Lomé, au Togo. Bonjour Mitozzi.
Oui, bonjour Emmanuel.
Mitozzi, alors vous avez dû faire un choix difficile pour votre famille. Racontez-nous par rapport à la hausse des prix.
Moi je ne vais pas parler du transport parce que nous ici au Togo, le carburant était augmenté de 90 francs le litre. Et alors il fallait faire un choix entre tout le déplacement, donc pour mon petit de 4 ans que j'amenais à l'école, en allant au service en voiture, j'ai dû supprimer la consommation avec la voiture pour opter pour la moto. Parce que je ne pouvais plus quand même dépasser, aller matin, midi, soir, le ramener à la maison. Donc, Pour le moment, il se trouve à la maison pour que le prix de déplacement pour le carburant soit un peu diminué.
C'est ça, votre enfant de 4 ans, donc vous avez renoncé à l'école pour cet enfant de 4 ans, à l'école maternelle, hein, où, pour ne pas dépenser de carburant, c'est bien ça?
Exactement.
Et le carburant, la dépense de carburant, vous la conservez pour aller au travail, j'imagine, hein?
C'est un peu ça. Et pour faire face aux autres dépenses.
Et oui, il y avait combien de kilomètres pour emmener votre enfant à l'école?
Ça fait pratiquement 12 kilomètres.
Ah, 12 aller. Kilomètres. Et oui, aller-retour ou aller seulement?
Aller seulement, ça fait 12 kilomètres.
Ah oui, donc on est à 24 kilomètres. 24 kilomètres par jour. On imagine bien la dépense de carburant, Midozi. Vous voyez, Pierre Janin nous disait que nos auditeurs n'avaient pas encore évoqué les choix difficiles, l'arbitrage entre le carburant, on le garde, pourquoi faire. Eh bien, voilà l'exemple de Midozi. Est-ce que vous avez aussi une question, je crois, à nous poser, Midozi?
Notre niveau ici, c'est quand même pour la première fois que nous sentons réellement les retombées de la France sur l'économie, sur le marché. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des conseils pratiques pour pouvoir s'adapter à la situation.
En 2008, vous n'aviez pas ressenti ce choc où vous étiez trop jeune, vous avez 31 ans, donc.
Oui, oui. J'étais très jeune en 2008, donc j'étais encore sous l'administration des parents, donc je n'avais pas tellement senti ça.
Oui, oui, c'était à eux de se débrouiller à l'époque. Merci beaucoup, Midozi, de nous avoir appelé. Concernant votre attente de conseils pratiques pour économiser au quotidien, je peux lire le message de Viviane à Yaoundé au Cameroun qui dit « Moi, je privilégie les produits locaux, même si l'offre n'est pas constante. Je consomme les produits de saison, je privilégie les repas traditionnels, particulièrement les recettes de grand-mère qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients pour être cuisinés. » Et puis, patient peut-être peut vous apporter un éclairage à votre question, Midozi. Bonjour, patient.
Bonjour, Emmanuel.
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, et comment vous faites-vous pour vous débrouiller suite à l'inflation, à l'augmentation des prix?
Oui, naturellement, moi, contrairement à mon prédécesseur, je ne connais pas le prix du carburant puisque je parle d'automobile, mais je me suis sévré. En fait, j'étais un peu un fin consommateur d'alcool, c'est-à-dire la bière principale. Et les prix étant inflatés, il y avait une inflation là. Moi, je me suis viré dans ma production, comme je suis habitué à côté de il y a un espace que j'utilise pour pouvoir faire mon maïs. Alors, je produis mon maïs localement que je fabrique les beignets.
Vous avez une parcelle où ça?
Oui, une parcelle qu'un voisin m'a employée. Que j'utilise pendant qu'il n'est pas encore construit. Donc, je mets mon maïs là.
D'accord, à Yaoundé, donc.
Oui, à Yaoundé. C'est un peu réputé, pas dans la ville, c'est pas Yaoundé Centre.
Oui, bien sûr. Une parcelle qui est encore disponible en attente de construction. Donc, vous avez semé du maïs. Et ça veut dire que ça vous évite de consommer d'autres céréales, par exemple?
Oui, puisque comme j'ai des enfants qui allaient chaque fois à l'école, ils utilisaient beaucoup plus de pain. Et comme vu que le pain n'est plus à ma portée, puisque chaque jour il faut consommer du pain, je me suis converti à faire plutôt le beignet local avec du maïs que j'associe avec les bananes mûres.
D'accord. Beignet de maïs avec des bananes mûres pour compenser le prix qui est devenu inabordable. Le prix du pain, c'est vrai qu'on a une flambée des prix dans plusieurs pays africains, alors qu'il est en principe réglementé par les autorités. Une telle hausse n'avait pas eu lieu depuis plus de 10 ans. On va écouter aussi les conseils. Merci à vous, patient, pour ce témoignage de consommateur avisé. On va écouter aussi les conseils de Mariana, qui est en Antananarivo, à Madagascar. Écoutez-la.
Pour remplacer la farine, j'utilise le manioc ou les pommes de terre. Et pour remplacer l'huile, je broie des arachides et je rajoute des légumes. Je fais aussi des crêpes avec des pois chiches et je les broie et je fais la pâte avec. Pour remplacer la viande et le poisson, j'utilise des haricots secs. Et j'utilise les poissons séchés qui sont encore abordables. Je réduis les produits chers. Merci.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Pierre Janin voulait apporter un éclairage, un complément d'information.
face à ces stratégies de consommateurs qui déplacent leurs achats, qui consomment différemment.
Faisons confiance aux consommateurs africains pour faire preuve d'inventivité et d'intuition, chacun ayant la capacité, en effet, ou peut-être avoir une petite production familiale, individuelle, une production au village, en bordure de la ville, ou également acheter, à se regrouper pour acheter peut-être en gros, même si évidemment le souci, avoir en gros, c'est attirer l'intérêt de la communauté, de la famille, des voisins, et donc être finalement sollicité pour redistribuer. Donc c'est toute la difficulté.
Et puis il faut avoir de la place pour stocker aussi, quand on habite en ville, c'est pas évident.
Mais n'oublions pas que plus on achète au détail en fractionné, plus le prix, le coût unitaire est élevé. Donc le prix au kilo n'est pas toujours le même que celui indiqué lorsqu'on achète au kilo ou au prix du sac.
Oui, alors ça, je crois que les consommateurs, ils s'en sont bien rendus compte. Ils voient bien que le pain est plus léger, le sachet, le sac est plus... Ils ont bien senti qu'il n'y avait pas la même quantité de nourriture. Nous accueillons Olo Sib, le conseiller du Programme alimentaire mondial, le PAM, pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, monsieur Sib.
Bonjour, madame.
La hausse des prix se rajoute à un autre problème que vous connaissez bien au PAM, ce sont les déplacements de population. Est-ce que vous diriez qu'à l'heure actuelle, dans certains pays du continent subsaharien, c'est la double peine ?
Ben, pour la région ouest-africaine en particulier, je dirais qu'il y a une triple peine, en fait. Il y a eu déjà une situation en 2021 avec une très mauvaise campagne agricole que la région a enregistrée. Le conflit s'est étendu, va maintenant toucher les zones, on va dire, les pays côtiers. Plus de 5 millions de personnes qui étaient des agriculteurs, des producteurs, maintenant sont déplacés et deviennent des consommateurs. Et on est dans une situation où, effectivement, ces pays récupèrent encore très difficilement des impacts de la COVID et des implications que ça a eu sur la fermeture des marchés, la dette des pays, l'inflation. Donc, c'est une triple peine que, finalement, les pays de notre région sont en train de vivre maintenant. Si on rajoute la situation en Ukraine, alors je pense qu'on va parler d'une quadruple peine.
Oui, pour ces pays du Sahel.
Et l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest.
Par ricochet. Par exemple, pour des éleveurs, quelles sont les conséquences de ces marchés perturbés, des marchés fermés, etc.
Alors, pour le Sahel en particulier, où l'élevage est le principal moyen d'existence pour des millions de personnes, l'insécurité elle-même déjà a énormément perturbé ce système, le système d'élevage du Sahel, notamment la transhumance. Et cette transhumance, elle est extrêmement importante pour la région et pour les populations éleveurs de la région. En une situation normale, on va dire une année normale, un éleveur du Sahel, notamment les plus pauvres, vont par exemple vendre de petits ruminants, que ce soit le bouc, que ce soit le bélier, pour acheter un sac de mil qui peut être consommé le mois. Et avec la situation aujourd'hui, l'insécurité, les éleveurs ont été forcés de vendre massivement leur bétail parce qu'ils ne pouvaient pas le garder, parce qu'aussi il n'y avait pas assez de fourrage, assez d'eau pour le bétail. Et aussi ce qui se passe maintenant, vu qu'ils vendent massivement, mais les prix ne sont pas les meilleurs. Donc avec un bélier ou un bouc, si vous voulez, vendu sur le marché aujourd'hui, ça procurera peut-être un sac, moins d'un sac, alors que dans les années antérieures, avec ce même bouc, il avait donc nettement mieux pour la consommation. Donc pour les ménages éleveurs, c'est un impact immédiat et direct, et ce qui fait que dans le Sahel, cette année, la crise pastorale a été extrêmement difficile. Elle a commencé très tôt et elle se prolonge encore jusqu'à ce qu'on ait les prochaines pluies et que le pâturage et les points d'eau reviennent.
On voit bien effectivement à quel point les facteurs s'entremêlent en fait pour provoquer cette hausse des prix. Par rapport à 2008, Olo Sib, est-ce que aujourd'hui vous diriez qu'on commence à se rapprocher d'une situation de hausse des prix de 2008 qui avait causé les émeutes de la faim, et pas seulement en Afrique, sur plusieurs continents, de nombreux pays du monde ?
Alors, en 2008, pour notre région en particulier, je dis toujours, on avait deux facteurs. On avait un facteur principalement exogène. On avait une crise financière au niveau international, au niveau global, qui affectait notre région, qui dépend fortement des importations des produits alimentaires de base. Mais comparé à 2008, cette année, on a aussi beaucoup de facteurs endogènes. On a, comme je l'ai dit tantôt, une sécheresse qui a dévasté ou qui a détruit les productions agricoles. on a les conflits qui s'étendent et qui entraînent tous ces mouvements de population qui perturbent les marchés. Des marchés sont fermés ou des marchés ne sont pas tout simplement approvisionnés. Cette année, si vous voulez, dans la région, pour parcourir une distance moyenne dans la région de 100 km, vous aviez normalement à peu près 4 checkpoints. Mais avec la situation sécuritaire aujourd'hui, vous en avez 13 en moyenne pour 100 km parcourus. Mmh. Si vous devez faire un voyage moyen dans la région qui durerait à peu près 1h10, aujourd'hui, vous devez en faire 3h pour le même parcours. Donc, on a une conjugaison de facteurs qui font effectivement que la crise de cette année est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus importante que ce que la région a connu en 2008. Je peux aussi vous donner juste un ordre de grandeur de variation des prix. En 2008, pour la moyenne de notre région, les prix des céréales de base avaient connu une hausse à peu près de 30% en moyenne. Cette année, on est autour de 50%, avec pour certains marchés et certaines parties de la région, des prix des produits alimentaires qui ont quasiment doublé.
Mais alors, est-ce qu'il faut craindre des émeutes de la faim ?
C'est un risque important dans une région où les importations font partie, sont extrêmement importantes et la dépendance aux importations est importante. C'est un risque important aussi dans une région où finalement, avec les effets de la COVID, on a vu une pauvreté qui augmente, l'extrême pauvreté a augmenté de plus de 3% avec maintenant un ménage sur trois ou plus d'un ménage sur trois qui vit dans l'extrême pauvreté. C'est un risque aussi important parce qu'on est dans une région malheureusement où on connaît une situation institutionnelle très fragile. On a vu un peu tous ces mouvements de coup d'État dans certaines parties de la région. Donc, c'est une région qui est dans une situation extrêmement difficile à tous ces niveaux. Et donc, les risques de meute de la faim ne sont pas à mettre de côté.
Quelle est l'action du PAM ? Alors, bien sûr, on connaît les distributions alimentaires du PAM, mais je sais que vous avez aussi des politiques de récupération de terres abandonnées que vous refertilisez pour stabiliser, par exemple, des populations. Vous avez un exemple précis ? Est-ce que c'est quelque chose de très minoritaire dans votre action ?
Alors, il faut voir que l'action aujourd'hui que nous préconisons, le PAM préconise dans la région, est structurée autour de 4 points qui sont importants et liés les uns aux autres. Le premier point qui est extrêmement important, c'est qu'il y a plus de 40 millions de personnes dans la région qui n'ont pas assez à manger et qui sont en insécurité alimentaire, à qui il faudra apporter une réponse maintenant et d'urgence pour s'assurer que jusqu'à la prochaine saison des soudures, ces personnes-là puissent se nourrir et avoir au moins les 2 repas minimum, voire les 3 repas normaux par jour. Il y a une forte mobilisation de la communauté internationale et des appels aux dons. Les pays se sont mobilisés avec des plans de réponse. Et pour ne serait-ce que la partie de l'aide alimentaire, on estime à peu près à 770 millions de dollars ce qu'il faut pour couvrir la période des 6 mois qui viennent. Un autre axe important de cette réponse, c'est le soutien aux programmes de protection sociale. Les couvertures des programmes de protection sociale dans la région sont faibles. Il faut les soutenir et les agrandir. Il faudrait que ces programmes de protection sociale puissent absorber davantage des populations qui sont affectées par des crises, comme les déplacements de population ou l'insécurité, de façon générale. On essaie aussi au niveau de cette région, c'est là que vous avez commencé, par ce programme de résilience qui est en train d'être mis à l'échelle. Et ce programme inclut des activités d'adaptation au changement climatique, la récupération de terres agricoles, l'aménagement de points d'eau, mais aussi on a un grand projet structurant dans le Sahel qui est la Muraille verte où le PAM aussi contribue. Donc nous contribuons à différents niveaux et peut-être 2 autres points importants que je voudrais faire ici pour mettre en évidence aussi l'importance justement de ce que vous aviez dit, que les problèmes s'entremêlent, sont plus complexes. C'est qu'il faut, on essaie, le PAM, on voudrait arrêter de faire la distinction entre humanitaire pur et développement pur. Ouais. Les problèmes sont liés et il faut pouvoir les traiter de façon holistique.
Bien sûr. Merci beaucoup, Le Cib, d'avoir été en ligne avec nous, hein, conseiller du programme alimentaire mondial, le PAM pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous. Je voudrais vous lire aussi un message d'Abdoulaye à Marwa au Cameroun qui nous dit « À Marwa, il y a une flambée des prix sur les denrées alimentaires de première nécessité. Les autorités administratives brillent par leur absence. » Mais certains élus locaux initient des magasins dont les produits alimentaires sont subventionnés journée pour que la population puisse passer ce mois béni de Ramadan. Cette inflation risque d'apporter une grogne sociale si rien n'est fait. Je voudrais aussi qu'on donne la parole à un auditeur, Pierre, puisque maintenant vous évoquez sur notre compte WhatsApp ce que vous attendez des autorités locales notamment. Emmanuel est en ligne avec nous de Bukavu en RDC. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, chers journalistes. Comme vous le savez, ici chez nous, précisément dans la ville de Bukavu, on a connu la hausse des denrées alimentaires dans nos différents quartiers, dans nos différents milieux, surtout ruraux. Et du coup, il y a eu beaucoup de problèmes, par exemple, le prix du riz, le prix de l'huile d'arachide a augmenté le prix. Et du coup, pour essayer de mettre fin à l'organisation droit environnement et citoyenneté d'éco-organisation a rencontré des autorités au niveau de la ville de Bukavu pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à jouer quand même à ne pas hausser le prix des denrées alimentaires. Et nous avons constitué un plaidoyer et du coup les autorités nous ont rassuré qu'ils vont s'investir pour essayer de baisser les prix. Mais malheureusement, ceux qui nous guettent, les prix n'ont pas baissé. Et sur le marché dans le monde rural, les habitants, principalement par exemple dans mon ménage, on a dit diminuer par exemple le nombre de repas par jour. Au lieu de trois, on commençait à manger deux fois. Mais aussi, on a essayé de larguer certains produits, par exemple les riz, par exemple...
Les produits importés. Ça veut dire que chez vous, Emmanuel, vous ne faites plus que deux repas par jour?
On mangeait trois fois par jour, mais à cause de... On a commencé à manger deux fois par jour. On a élagué aussi certains produits qu'on ne trouve pas ici localement, surtout dans les fonds.
C'est ça. Et vous avez remplacé par de la farine de manioc, de l'huile de palme, à la place de l'huile d'arachide. Vous êtes nombreux à nous envoyer des témoignages de ce type. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir été en ligne avec nous. Je suis désolée, la ligne téléphonique n'était pas formidable. Nous n'y sommes pour rien. Franck Galtier et Pierre Jeannin, aujourd'hui, les solutions viennent aussi des pays du Nord. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour limiter l'impact sur les ménages subsahariens, Franck Galtier?
Alors en fait, il y a des choses qui pourraient être faites effectivement par les pays du Nord et puis il y a des choses qui pourraient être faites aussi par les gouvernants des pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale. Alors ce qui peut être fait par les pays du Nord, il y a une solution assez simple qui permettrait de stopper les augmentations de prix sur les marchés internationaux pour le blé, le maïs et les huiles végétales. Et cette solution, ça consiste à récupérer les quantités phénoménales d'huile végétale et de céréales qui sont utilisées pour fabriquer du carburant. Je vais donner deux chiffres. Les exportations d'huile végétale qui sont compromises par la guerre en Ukraine, c'est 6 millions de tonnes. La quantité d'huile végétale qu'on utilise dans l'Union européenne pour fabriquer du carburant, c'est 11 millions de tonnes. Donc il suffirait qu'on en prenne la moitié de ces 11 millions de tonnes et on arriverait à effacer l'effet de la guerre en Ukraine. Même chose pour les céréales. La quantité de céréales, les exportations de céréales qui sont menacées ou bloquées suite au conflit en Ukraine, c'est 85 millions de tonnes, donc de blé et de maïs. Et ça représente à peu près 20%, le cinquième des quantités de blé et de maïs qui s'échangent sur les marchés internationaux. Eh ben, aux États-Unis, on utilise 140 millions de tonnes de maïs pour fabriquer du carburant. Donc là encore, il suffirait d'en prendre la moitié et on effacerait l'effet de la guerre en Ukraine.
Incroyable ces chiffres, ça donne le vertige, je dois dire, Franck Galtier. Pierre Jeannin, concernant l'agriculture, est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle crise alimentaire, cette inflation sur le continent subsaharien, elle repose la question de quelle agriculture pour demain ? En Afrique.
Clairement, et non seulement avec quel modèle de production agricole, mais avec quel objectif politique. Depuis 4-5 ans, on voit refleurir à nouveau des discours, une incitation à l'autosuffisance alimentaire, à l'autonomie alimentaire, à l'indépendance alimentaire. Tous ces termes qu'on croyait oubliés du fait de la globalisation des marchés, de la possibilité de s'approvisionner facilement. Alors, il y a des succès, c'est vrai, depuis la crise de 2008. systématiquement la filière riz a été privilégiée.
C'est ce que j'allais dire.
Il y a des succès en termes de hausse de production.
Et c'est pour ça que le riz n'a pas tant que ça augmenté d'ailleurs.
Exactement. C'est la contribution, même si la dépendance reste autour de 45% pour le riz, compte tenu de la consommation globale, contre 20% dans les années 70, la performance des systèmes agricoles africains est réelle.
Ouais. Parce qu'on dit qu'il faut baisser les taxes, mais c'est vrai aussi que dans des pays qui ont du mal à lever des impôts sur le revenu notamment, les taxes, elles sont quand même importantes. Il faut bien que de l'argent rentre dans les caisses de l'État.
On est bien donc clairement dans une crise systémique. Vous voyez bien que tous les effets d'interaction, toutes les prises de décision et toute la difficulté, c'est de faire ces arbitrages politiques entre les priorités qu'on se donne à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Mmh. Il y a parfois une discordance, on n'est pas en phase, on n'est pas dans les mêmes temporalités, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes intentionnalités et puis on n'a pas les mêmes groupes, catégories à protéger, certains favorisés et d'autres au contraire plutôt défavorisés, qu'il faudrait, des vulnérables qu'il faudrait protéger.
Je crois que vous avez très bien fait la démonstration tous les deux, hein, à quel point nous sommes tous interdépendants chez les 7 milliards et demi de voisins aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre Janin de l'Institut de Recherche pour le Développement, Franck Galtier, spécialiste des marchés alimentaires au CIRAD. Et puis merci aussi à Olosib du Programme Alimentaire Mondial pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et merci pour tous vos messages, hein, les voisins, les voisines, extrêmement éclairants sur le sujet, sur la situation que vous vivez actuellement, très concrète. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation, comme chaque semaine. Faut-il apprendre à écrire à l'école? Est-ce encore utile à notre époque où les écrans sont partout? À quoi sert l'écriture manuscrite? Même la liste des courses au marché, eh ben, on la fait souvent sur son téléphone. Vos points de vue nous intéressent, surtout si vous êtes parents. Est-ce que vos enfants sont intéressés par le fait d'apprendre à former des lettres alors qu'ils ne vous voient jamais écrire à la main? Bon, ma question est un peu provocante. On en discute demain en direct au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal juste après Saad. Bismillah, nyongi dor, si penchu mei, jubali, wari, abdu, kafe, kafe. Su khol mi sore. La su café laina, pole, joron, pole. Kuko gala yemu, fare fajar yemu, café domu jara, kenduko café. Milliards de voisins, c'est presque fini. Merci à l'équipe Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouze. N'oubliez pas de réécouter nos émissions en podcast si vous avez loupé le début. Et puis aussi aller sur notre compte Instagram 7 milliards RFI pour voir les photos du reportage à Ziguinchor sur le marché de Raphaël Constant. Dans quelques secondes, le journal sur RFI.